Nous vous saluons comme des membres. Nous vous saluons comme des membres d'une seule et même humanité.
Bien, écoutez, merci beaucoup. Allez.
Merci pour cette autorisation. À qui l'Éternel, notre Père, donne la vraie vie, à qui Jésus, l'homme de Nazareth, donne la lumière de sa parole. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à celles et ceux qui sont venus se ressourcer. Bienvenue à celles et ceux qui ont mis pour un temps leurs préoccupations entre parenthèses. Voici quelques précisions. Ce culte et sa prédication, de même que le texte et les textes que je viens de prononcer, les mots que je viens de prononcer, ont été préparés par Olivier et Jean-Pierre Michaud. Jean-Pierre Michaud a eu un problème de santé important. Il se rétablit tout doucement. Et je vais donc parler à sa place. Et je vais mettre les mots qu'il a choisis dans ma bouche. Dans la mesure du possible, qu'est-ce que j'étais en train de lire ? Excusez-moi. Ils ont choisi de faire appel au psaume dans la mesure du possible, en fidélité, pour affirmer de la traduction tradition huguenote. Les cantiques propres à ce culte sont indiquées comme d'ordinaire sur le panneau, ainsi que les strophes choisies. Nous chanterons beaucoup de spontanés. Olivier et moi-même donc conduirons le culte, et Florence était à l'accueil, et Mathieu à la musique, et on l'en remercie. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter le premier spontané, 21-03. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus, le Christ, qui nous aime et nous conduit. Ô toi qui es assoiffé, ne crains rien. Je t'appelle par ton nom. Je m'attacherai à toi pour toujours. Je te conduirai dans la solitude. Je te parlerai cœur à cœur. Je ferai de toi la porte d'espérance. Par la justice et le droit, par la tendresse et l'amour, je t'attacherai à moi pour toujours et tu connaîtras mon nom, car je suis l'Éternel ton Dieu, ton Sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime, ne crains rien, car je suis avec toi.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous invite à louer l'Éternel avec le psaume 30. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi. et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. Tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Et je vous propose de chanter le psaume 36, au Seigneur ta fidélité, les strophes 1 et 2.
Je vous invite à vous associer à ces mots du psaume 69 pour dire notre désarroi, notre souffrance. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombée dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ô Dieu, Tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confondus à cause de moi, ne soient pas confus à cause de moi. Tel que je suis bien vacillant. Que nous vivons et que nous nommons pardon est plus profondément un chemin de liberté. Il nous est donné d'être en vérité ce que nous sommes, libres devant l'Éternel notre Dieu. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la source de vie et je la donnerai gratuitement. Vous qui avez soif d'une vie nouvelle, recevez l'assurance qu'effaçant tout ce qui est d'hier, Dieu fait en vous toute chose nouvelle. Amen. Le spontané des louanges.
Voici ce que Dieu nous propose. Voici l'offre de vie qui nous est faite. Et je veux vous lire le Deutéronome 30. J'en prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours. Amen. Je vous propose de chanter le 44, le spontané 44-08, pour qu'aujourd'hui je sois libre.
Thank you.
Nous prions l'Éternel, notre Dieu, avant de lire les Écritures. Pour lui, que ses paroles humaines soient illuminées et soient paroles de vie. Éternel, toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple, toi qui as murmuré la sagesse des proverbes de Job et de l'Ecclésiaste, toi qui nous as donné ta parole en termes humains dans la bouche de Joshua, Jésus, l'homme de Nazareth. Éternel, en cette heure, donne la lumière à ces paroles humaines. Qu'elles soient pour chacun de nous ta parole. Amen.
Et nous lisons dans Jean 20, les strophes 1 à 25.
Oui.
Nous tous les deux, on va lire jusque-là.
Oui.
Jusqu'à 20.
Et toi, tu t'arrêtes à 18.
Voilà. Tôt, le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau. Elle courut alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui qui aimait Jésus, et leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin posées à terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva à son tour et entra dans le tombeau. Il vit les bandes de lin posées à terre et aussi le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec la bande de lin, mais il était enroulé à part, à une autre place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, jusqu'à ce moment, les disciples n'avaient pas compris l'Écriture qui annonce que Jésus devait se relever d'entre les morts. Puis les deux disciples s'en retournèrent chez eux. Marie se tenait près du tombeau, dehors, et pleurait. Tandis que, qu'elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle vit deux anges, en vêtements blancs, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent « Pourquoi pleures-tu ? » Elle répondit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Cela dit, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle pensa que c'était le jardinier. C'est pourquoi elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit « Marie ! » Elle se tourna vers lui et lui dit en hébreu « Rabouni !» ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. » Alors, Marie de Magdala se rendit auprès des disciples et leur annonça « J'ai vu le Seigneur !» Et elle leur raconta ce qu'il lui avait dit.
Et je vais vous lire la fin du chapitre 20, parce qu'en fait, ce chapitre, on ne peut pas le dissocier véritablement. C'est vraiment un bloc. Alors, il y a des petites choses qui ont été rajoutées dedans, mais dans l'ensemble, c'est vraiment totalement homogène. À partir du 19, le soir même de ce dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison et ils en avaient fermé les portes à clé car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon, ne l'obtiendront pas. » Jésus et Thomas. Or, l'un des 12 disciples, Thomas, surnommé Didyme, le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur répondit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Bon. Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé, mais Jésus vint et debout au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Mets ton doigt ici et regarde de mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru ? Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. » Ah, Thomas. Thomas, le fameux disciple incrédule, l'esprit fort qui demande des preuves pour voir. En fait, depuis notre enfance, on a été bercé dans cette idée. Hein. Alors, regardons un peu les choses de plus près. D'abord, ces versets sont uniques. On ne les retrouve que dans l'évangile de Jean. Ensuite, et c'est déterminant, nous lisons ici un évangile très particulier. L'évangile de Jean est en effet un ouvrage de rédaction tardive, vers 90, à haute teneur théologique et discrètement, mais très fortement, influencé par la gnose. Mouvement qui deviendra très puissant entre le 1er et le 4e siècle en Orient. Les adeptes de la gnose croient en un Dieu désincarné, un dieu de lumière est parfait par définition. Pour eux, si Jésus est Dieu, comme il est impossible de crucifier Dieu, ce qui a été vu sur la croix n'est pas un corps humain. Ce n'est qu'un reflet, une image de Jésus, fils de Dieu. Par la suite, ce courant particulier du christianisme antique finira par évoluer vers ce qu'on nomme une religion à mystère, aux rites secrets et aux interprétations alambiquées réservées aux seuls initiés, que ce soit pour l'enseignement de Jésus comme pour la représentation de Dieu. Le texte dont nous allons parler aborde différentes perceptions de Jésus ressuscité et différentes perceptions de la foi, et plus précisément de l'acquisition de la foi, de la révélation. Son objectif théologique est de concilier le courant de la gnose et le courant traditionnel sur les deux natures de Jésus, nature humaine et nature divine, et de le faire en montrant la place de la preuve dans le processus de foi. En réalité, le discours sur ces deux thèmes débute assez tôt, dès le premier verset du chapitre 20. Il s'agit d'une succession de découvertes et d'apparitions de Jésus à différents disciples, qui décrit avec précision les différents processus d'acceptation de la foi selon chaque individu. La révélation faite à Thomas ne constituant finalement que la conclusion du chapitre 20 tout entier. La série débute avec Simon-Pierre, puis c'est au tour du disciple bien-aimé, qui voyant le tombeau vide et les linges au sol, croit qu'effectivement, comme annoncé par les Écritures, Jésus est ressuscité des morts. Vient ensuite l'apparition à Marie de Magdala. Cette dernière regarde à l'intérieur du tombeau de Jésus. Elle y voit deux anges qu'elle ne reconnaît pas comme des anges. Puis elle se retourne et voit Jésus. Jésus debout, qu'elle ne reconnaît toujours pas non plus, à qui elle parle et qu'elle confond avec le jardinier du lieu. Ce n'est qu'au moment où Jésus l'interpelle sèchement par son nom qu'elle le reconnaît enfin comme le Seigneur. Pour les auteurs, non seulement Marie de Magdala ne le reconnaît pas, mais plus encore, puisque selon la gnose, le ressuscité est une image, il ne peut pas être touché. Le petit paragraphe de « non me tangere », ne me touche pas, qui est inséré là, c'est vraiment l'expression de la gnose, on ne peut pas toucher une image. Et nous arrivons à l'apparition aux disciples. Jésus les salue au verset 19. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et dit « la paix soit avec vous ». En sachant qu'il lui faut apporter la preuve de son identité, Jésus présente immédiatement ses plaies pour que, je cite, le 20, « les disciples soient dans la joie en voyant le Seigneur ». Hormis le disciple bien-aimé et Simon-Pierre, Simon-Pierre dont la foi n'est pas réellement attestée, je veux dire la foi dans la résurrection de Jésus. Tous ceux à qui se présente Jésus semblent frappés de cécité. Alors que tous ont vécu de longues années avec le Maître, aucun n'est capable de le reconnaître spontanément. Leur état de sidération est tel que même faisant face à Jésus, ils ne peuvent pas le voir. Notre cerveau ne peut reconnaître que ce qu'il s'attend à trouver. Tous ont suivi un prophète et les voici face à Dieu. Électrochoc massif. Et puis, quel chemin parcouru en 40 ans depuis la position de Paul qui, dans sa lettre aux Romains 10, 9, distinguait clairement Jésus, Seigneur, de Dieu. Je cite, « Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Venons-en maintenant à l'histoire de Thomas proprement dite, des versets 24 à 29. La position de Thomas est tout à fait différente de celle des autres protagonistes. Dans un premier temps, il n'est que le récipiendaire du témoignage de la parole portée par les disciples. Au verset 25, les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur ». Ce qui fait de lui la figure parfaite du futur chrétien à qui l'on apporte la bonne parole de la résurrection de Jésus. Sa réaction est classique. Il refuse le témoignage des disciples sur la résurrection de Jésus. Mais à bien y regarder, Thomas n'est pas un mécréant. Il croit en Dieu et il croit en Jésus puisqu'il a fait partie de son cercle proche. Ce que Thomas refuse, c'est avant tout le témoignage des disciples. Thomas ne dit pas « je ne crois pas ». Thomas dit aux disciples « je ne vous crois pas ». En fait, Thomas refuse seulement la parole portée par les hommes. En revanche, lui seul reconnaît immédiatement Jésus quand ce dernier se présente. En 8 jours, c'est la semaine, il a déjà effectué ce que certains théologiens nomment le saut pascal, la révolution intellectuelle, qui au moment de la Pâque a fait passer Jésus de l'humain au divin par la résurrection. Ainsi, Thomas n'a plus nul besoin de preuves. La tentative de Jésus d'éprouver sa foi pure en lui proposant la preuve par le toucher de ses plaies tourne court. Et Thomas rend immédiatement grâce au maître par un aveu fervent, je cite 28, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, montre les deux aspects du combat théologique de l'époque, une face vers le sacré, une face vers le monde. Il décrit clairement la dualité entre la gnose pour ce qui est parfait, lumineux, stable, et de ce qui relève de l'existence quotidienne du monde matériel. Les rédacteurs de l'Évangile de Jean ont apparemment assemblé les deux thèses qui agitaient la chrétienté de l'époque en un seul et même personnage, Thomas. Ainsi nous est-il présenté à la fois comme un disciple de la gnose et du chrétien à venir. Et c'est une conversion en 2 étapes. Thomas commence par exiger la preuve de l'identité de Jésus. Ce faisant, il s'écarte de la gnose qui prétend que le crucifié n'est qu'une image et il revient vers le monde concret en rejoignant le groupe de ceux qui doutent. Puis, face à la tentation de toucher les plaies du maître, qui serait une preuve encore plus forte, encore plus tangible qu'une simple apparition, il renonce néanmoins à toucher Jésus. Par ce renversement spectaculaire, lui, qui semblait le plus rétif de tous, reçoit la révélation sur la vérité de l'apparition de Jésus, sans aucun délai et sans aucun doute. Thomas est donc présenté comme le modèle du chrétien à venir, à qui la seule parole doit suffire pour croire, et plus encore pour croire à la double nature du ressuscité, une nature à la fois humaine et divine. Je cite le verset 28, « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est-à-dire à la fois Machia, le Seigneur terrestre et humain des Juifs, et Dieu lui-même. Mais les rédacteurs de ce texte savaient parfaitement à quel point, selon l'expression « la preuve tue la foi », la foi est un ressenti, une sensation de Dieu. Par définition même, elle échappe à la pensée rationnelle. Alors, si faire admettre par Thomas la nature également humaine de Jésus est bien l'objectif de ce texte, encore ne faudrait-il pas négliger la nature divine du ressuscité? Et pour ce faire, les auteurs accompagnent leur démarche d'une véritable dissertation sur le sujet. En fait, dans ce chapitre 20, tout est mis en place pour montrer que plus on s'éloigne des preuves de la résurrection de Jésus, plus il devient facile de croire. Les disciples et Marie de Magdala, qui ont Jésus sous les yeux, ne le reconnaissent pas. Simon-Pierre et le disciple bien-aimé ne voient rien d'autre que des bandelettes, mais ils se mettent à croire. Et pour finir, Thomas qui admet immédiatement la double nature de Jésus, à la fois humaine et divine, et qui réconcilie ainsi les adversaires du débat sur la nature du ressuscité. Alors, qu'en est-il de ce texte pour la période actuelle? En quoi ce texte nous concerne? Je vous propose 3 axes de réflexion. Il y en a une infinité d'axes de réflexion, c'est tellement riche. Mais je vous en propose 3. En premier lieu, ce texte montre que la représentation de Jésus peut varier. De la même manière, les conceptions de Dieu peuvent varier. Cela ne devrait-il pas nous conduire à percevoir les différentes formes de la foi chez nos contemporains avec la plus grande tolérance. Le 2e axe de réflexion nous concerne encore plus directement. À titre personnel, nous devons admettre que nos perceptions de Dieu peuvent se modifier au cours de notre vie. Ces variations doivent-elles nous effrayer ? En réalité, elles ne remettent pas notre foi en cause. Elles nous montrent à quel point seul le travail interne, personnel, intime, l'approfondissement de notre sentiment de Dieu est important. Par définition même, la foi échappe à la pensée rationnelle puisqu'elle est indémontrable. La foi est un ressenti, une sensation de Dieu. Alors bien sûr, tout comme notre humeur, notre dialogue avec l'Éternel se modifie sans cesse. Il arrive qu'il disparaisse, que nous le perdions, momentanément ou bien hélas, définitivement. C'est juste le signe de notre humanité. Ça ne veut pas dire que Dieu s'en est allé. La foi est un phare à éclipse, disait Victor Hugo. Ne faut-il pas accepter que la lumière de Dieu n'éclaire pas systématiquement tout le monde et que, pour ceux qu'elle touche, elle ne puisse finalement être qu'intermittente? Ce texte nous montre que Jésus se présente régulièrement à nous. Je veux dire, il met de la bonne volonté, hein, et ça arrose large. Nous le voyons. Nous ne le voyons pas. C'est selon. Jésus nous interpelle régulièrement pour nous ouvrir les yeux. Mais pour la plupart d'entre nous, qui n'avons pas eu de vision, Jésus ne se présente pas comme il le fit à Marie de Magdala, aux disciples et à Thomas. Eux l'ont vu, et pourtant il a fallu que Jésus les interpelle pour qu'ils comprennent. Alors pour nous, c'est encore plus difficile, puisque nous, on doit se contenter de la parole. Au final, la seule chose importante ne serait-elle pas notre capacité à voir, ou plus précisément, à admettre sans voir ? La troisième piste de réflexion que je vous propose provient de la conclusion même de ce chapitre 20. Et très sincèrement, je pense que cette conclusion est un axe philosophique et non pas un axe théologique. Je cite verset 29. « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Bon, alors, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, ça fait l'objet déjà des développements antérieurs. Mais là, il y a un mot qui est rajouté, qui est un mot absolument fondamental, qui est l'adjectif « heureux ». Et en quoi le fait de croire sans voir nous rend-il heureux ? Cette injonction au bonheur nous interpelle fortement. Bien sûr, le fait de croire sans voir implique, par définition, que la preuve est antagoniste à la foi. La foi en tant que ressenti est indémontrable, la preuve est donc sans effet sur elle. Même les miracles de Jésus peuvent faire l'objet d'une interprétation matérialiste. Quant aux bienheureux qui bénéficient de visions, leur expérience n'est partageable que par leur témoignage. On est encore dans la parole. Force nous est donc de croire sans voir, et c'est en réalité un gage d'efficacité, d'économie de nos forces. Arrête de brasser, nous dit le texte. La recherche de la preuve est un tourment pour l'esprit. Il est juste générateur d'angoisse et de frustration. Fais plutôt comme le conseillait le philosophe Pascal avec son fameux pari sur l'existence de Dieu. Mets-toi à genoux et prie. Le reste, la foi, viendra. Bien entendu, la foi rend heureux, mais l'injonction de Jésus, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, montre que c'est le processus lui-même de croire sans voir qui rend heureux. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'il rend confiant. C'est l'abandon de notre pseudo-intelligence, de notre sens critique qui est à la source de la béatitude. Parce que cet abandon se fait au profit de la confiance en Dieu. Il nous fait sentir son amour. Comme la plupart des miracles, car c'en est un véritable, Jésus nous demande de changer notre point de vue. Ce décalage d'approche, souvent contraire à notre fameux bon sens commun, à ce qui nous fait croire en notre propre intelligence, constitue notre véritable révolution interne. Il suffit de cesser de penser et de penser à soi pour sentir la présence de Jésus. Un coucher de soleil que tu contemples et qui te révèle l'incroyable beauté de l'univers. Le premier sourire d'un bébé, cadeau prodigieux qu'il t'offre de manière totalement inattendue. Un humain qui te tend la main dans la peine et la douleur et qui te donne le courage de continuer. Un ami recraché par Hadès et qui revient à la vie parmi nous. C'est tout simple. Jésus est là, tout le temps. Cette chose immense qui nous envahit, ce sentiment qui, d'humain, nous aspire vers le céleste, nous fait ressentir l'éternité. Le temps s'arrête. Il n'y a rien d'autre à faire que d'en jouir en remerciant Dieu. Voilà. Il faut apprendre à dire merci, au lieu de considérer tout cela comme acquis. La grâce sous toutes ses formes nous est donnée. Et combien de fois nous ne savons pas l'accueillir. Ainsi, ce sont nos progrès sur la compréhension de Dieu, du monde, qui nous rendent véritablement heureux. Jésus révèle à Thomas le chemin d'un apprentissage dynamique, l'apprentissage du bonheur, en identifiant d'abord Dieu dans ce que nous vivons au quotidien, puis tout simplement en lui rendant grâce. Cet apprentissage continu, adossé à la confiance en Dieu, nous procure un sentiment d'accomplissement et de profonde libération. C'est lui qui nous apaise et qui nous ouvre à la beauté. Jésus nous explique comment grandir, comment accroître notre discernement, comment écouter et entendre le monde qui nous entoure. Il suffit de le suivre sur ce chemin. La lumière est là, pas question de cécité cette fois. S'il en fallait une, voilà une bonne nouvelle. Amen.
Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter le cantique 118.
C'est page 136.
Page 136. Les strophes 2, 4 et 6.
proposons de partager notre foi. Nous croyons en Dieu. Chaque jour, il crée l'univers à nouveau. Il a mis en nous sa lumière. Elle nous fait grandir et nous rend libres.
Par cette création, chaque jour, il donne à l'homme un présent et un avenir. Chaque jour, il donne un sens à notre vie. Chaque jour, il donne à l'être humain et à la terre entière une espérance. Chaque jour, il nous ressuscite. Nous croyons que Joshua, Jésus, le Christ, nous donne à entendre une parole de salut. La parole. Cette parole, nous l'écoutons et elle témoigne d'une surprenante proximité avec Dieu.
Nous reconnaissons une assemblée qui unit tous les croyants en Christ par-delà les frontières religieuses. Par la force de l'amour, de son amour, le Seigneur nous guide sur le chemin de la vie. Amen. Amen. Nous venons de confesser ensemble notre foi en la parole. Par l'offrande, nous voulons donner un témoignage de notre engagement.
temps des annonces. Rien d'exceptionnel cette semaine, les annonces classiques. Chorale de 18h à 19h15 jusqu'à 20h45. Parole et prière, le groupe de prière à 18h, de 18h à 19h. Le repas partage, tous les vendredis à midi, pour ceux qui n'ont pas déjà participé. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ?
Bonjour à tous. Bientôt, ce sera samedi 30 avril 2022. Ça va faire 15 ans de la mort de Corinne Lemarchal. Je l'aime, il nous manque énormément. Ce thème grec, je ne t'oublierai jamais, je ne baisserai jamais les bras. Parce que tu as dit à des parents, c'est mon président de l'association, c'est Pierre de Marchal, c'est que lui et personne d'autre. Je transmets le message à Craig. Craig, c'est toi que tu veilles sur moi, tous les jours. Tu me manques. Reviens parmi nous. Ça va faire 15 ans bientôt. Je suis triste, ton donateur de l'association, Pierre de Marchal. Je t'aime et je t'aimerai pour toujours. C'est toi qui fais sur moi. Je t'aime, Craig. Je ne t'oublierai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je t'aime, mon idole. Je baisserai jamais les bras. Et personne ne baissera les bras. On t'aime. I love you.
Éternel, nous plaçons sous ton regard le monde qui nous entoure et que tu nous as confié. Bon, je n'ai pas dit qu'on en ait fait ce qu'on aurait dû, mais ça c'est une autre histoire. Donne à chacun de nous d'agir selon ta parole. Nous avons des yeux, donne-nous de voir. Nous avons des oreilles, donne-nous d'entendre. Nous avons un cœur. Donne-nous de comprendre et d'aimer. Donne-nous d'être présents à ceux qui sont près de nous. Donne lucidité et courage à ceux qui sont en responsabilité. Donne espérance à ceux qui vivent dans la souffrance et dans l'oubli. Fais-nous grandir et rappelle-nous chaque jour que nous sommes en charge de la parcelle de lumière que tu as mise en nous, que ta parole libre conduise chacun de nous. Nous voici unis dans la prière que tu nous as confiée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Béni soit l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur, celui dont le Seigneur est l'assurance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne voit pas venir la chaleur, et son feuillage reste verdoyant dans l'année de la sécheresse. Il est sans inquiétude et ne cesse de porter du fruit. Nous vous invitons à partager la bénédiction du Seigneur.
Le Seigneur vous bénit et vous garde.
Le Seigneur fait resplendir sa lumière.
Le Seigneur nous accorde sa grâce.
Le Seigneur tourne sa face vers nous.
Il nous donne sa force.
Il nous donne sa paix. Amen. Amen. Et nous allons chanter « Confie à Dieu ta route ». Le 4704, page 732. Les strophes 1, 2 et 4. Merci à Olivier et à Jean-Pierre qui est avec nous par la pensée et passez un bon dimanche.
Bon dimanche à tous.
Merci à vous.